11h, c'est l'heure de la maraboutique.
Manu Dibango sur Africa numéro 1, la maraboutique.
Maraboutique du dimanche matin, notre Bastille, Tito.
Nous la prenons musicalement, cette Bastille. Alors musicalement, ou alors avec nos parutions habituelles, dans les kiosques, ça ne vous a pas échappé. Un empire africain, logistique, port, plantation. Un personnage ô combien médiatique qui évolue également dans les médias et qui fait la une. Il s'agit de Vincent Bolloré pour nos amis d'Afrique Magazine.
Eh oui, en première, en couverture.
En couve. Alors évidemment, il n'y a pas que cela. Il y a des papiers, notamment celui qui met sous la lumière notre consoeur et ami Rokhaya Diallo. Je gêne parce
elle
que...
Elle aussi, elle est en pointe en ce moment.
Voilà, je gêne parce que je dénonce le racisme institutionnel, pardon, nous dit Rokhaya. C'est vrai qu'on est habitué à la voir sur les plateaux de télévision. Elle est très engagée.
Elle est dans les Robert aussi, non ? Il n'y avait pas les Robert, là, il y a quelque temps. Là.
Absolument. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de la cerner, mais on va juste dire que elle revendique cette liberté de ton, Rokhaya Diallo, parce qu'elle trouve que finalement, l'histoire se répète et que des décennies après, il faille encore expliquer pourquoi, ma foi, nous sommes là, sur le sol de nos ancêtres, les Gaulois, etc., etc.
Ben, il faut expliquer parce qu'il y a eu beaucoup de périodes. Moi, ma période, quand nous étions jeunes, je crois que je t'en ai déjà parlé. Les photos d'école que tout le monde connaît là, des années 50, beaucoup de gens seraient surpris, des deux côtés d'ailleurs, que ce soit les Africains, que ce soit les Français, de savoir le nombre de jeunes Africains qui étaient là dans les années 50. Et pas seulement dans un lycée, dans des collèges et tout ça, on était très nombreux. Naturellement, nous étions encore sous la colonisation. Donc dans les livres d'histoire et de géographie d'ailleurs, on parlait beaucoup d'Afrique. Les gens de ma génération, hexagonaux, connaissent très bien l'histoire de l'Afrique. Simplement, à partir des années 60, comme par hasard, il y a une gomme qui est passée.
Oui.
Voilà, et donc souvent des jeunes pleins de bonnes intentions te demandent toujours pourquoi les Africains sont là. Donc, quand si on arrive à poser ce genre de questions en 2000 et quelques, c'est qu'il y a une grosse gomme. Alors, c'est normal que les Rokhaya et tout ça se réclament. Eux et elles, qui sont les enfants, sinon les petits-enfants de cette époque-là, des années non seulement des tirailleurs sénégalais, mais après, les étudiants qui sont restés, les travailleurs qui sont restés, les dockers et tout ça. Mais moi, je vais te dire une chose, ce serait bien que, entre nous, les Africains déjà, qu'il y ait des professeurs qui expliquent déjà à cette communauté, on ne parle pas de communauté, mais on en parle beaucoup parce que concrètement, c'est communauté. Donc il faudrait que la communauté soit au courant et des filles comme Rokhaya du moins, elles sont là pour non seulement agiter la cloche pour agiter, mais donner aussi peut-être les notices explicatives.
Et c'est bien parce qu'elle parle, elle dit j'ai un problème, c'est que j'ai l'arrogance de dénoncer le racisme institutionnel et non lui dire Rokhaya, continue à être arrogante au dire de certains, ça fait avancer les choses et puis surtout ton propos est intelligent et très très bien mené. Un propos également dans les colonnes de nos amis d'Afrique Magazine, puisqu'on en parle, le doyen Manou, on a évoqué, on l'a dit ici en évoquant le cas d'Axel Emmanuel Gbaou, tous ces jeunes qui font des choses, qui créent et qui s'engagent, oui. La tranche des 23-40 ans sur le continent africain que rien n'arrête en ce moment, ils sont très nombreux et on les appelle les makers, c'est ce fameux en avant les makers.
Oui, parce que eux ils sont de la génération, genre ici il y a eu ça, Hitler connaît pas, bon, ouais. Eux c'est indépendance connaît pas, Afrique, oui. J'entends partout parler de la France aux Français et tout ça. Et bientôt, ce sera l'Afrique aux Africains, quoi. Et eux, dans les 23 ans, qui ont de l'ambition, et c'est à leur honneur d'ailleurs qu'à cet âge-là, ils aient l'ambition non pas de prendre des pirogues, de pleurer, larmoyant, d'aller mendier, non, de réaliser qu'ils ont un continent qui est très beau, très riche, et que à partir de ce continent, ils peuvent se réaliser, comme tout le monde.
Et surtout qu'ils ont, pour beaucoup en tout cas, la tête bien pleine et des idées également. Et ils quittent le pays pour voyager, enrichir leur CV. Là, dans ce cas précis, c'est d'enrichir la Guinée de demain, mais ça pourrait être le cas avec tous les pays.
Ah, tu multiplies.
On multiplie par autant de pays d'Afrique. Et chose intéressante, beaucoup d'ailleurs commencent à intéresser les dirigeants de nos pays respectifs, à condition de les laisser déployer leurs ailes, parce que ce n'est pas non plus évident. Il y a toujours quelques personnes qui...
Il y en a qui parlent avec un frein moteur. Quoi.
Avec un frein moteur, et qui ne sont pas pour que les choses avancent.
Ah, c'est bien d'inviter le gars qui a grimpé, d'inviter le grimpeur. Ben, s'il n'avait pas pris la pirogue, ce grimpeur-là, on ne serait pas en train de l'inviter, ni même savoir même qu'il existait. Or, des grimpeurs comme lui, probablement, il y en a partout pour d'autres choses. Hein. Je veux dire, il y a des jeunes pleins de bonne volonté qui ne demandent qu'à éclore, de préférence chez eux. Et s'ils prennent des pirogues, c'est qu'il y a un problème quand même, à la base.
Et oui, et ce problème des jeunes qui partent à l'aventure, mais pour le rêve artistique, ce coup-ci, eh bien, c'est le cas de deux jeunes loups. Le Doua Manou les a connus, évidemment, avec des locks, des cheveux flamboyants sur scène, notamment avec des tournées incroyables comme Paris Ziguinchor. Ils sont de retour et le Doua Manou est au courant. Pourquoi? Parce que dans leur nouvel opus Lambigolo, il y a poussé quelques mesures.
Voilà, ça me rappelle. Nous sommes très contents, toi et moi, déjà, parce que ça fait des années, je peux le dire, qu'on réclame après les Touré Kounda. Ils ont eu une traversée, je ne sais pas de quoi, de mer, de désert. En tout cas, ils étaient absents de la scène et pas du tout visibles dans le monde du spectacle. On se posait toujours la question, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils étaient en train de concocter un album, ma foi. Et je crois que toute la diaspora culturelle, en tout cas musicale, de Paris, a répondu oui quand ils ont invité chacun pour faire 4 mesures, 16 mesures, 18 mesures. Et ça, vraiment, on les a encouragés. De la façon la plus nette qu'on peut encourager, c'est de venir de participer. Ça veut dire qu'on est consentant et que... On espère que ça va les relancer, que l'album va plaire et que c'est un redémarrage.
Et oui, 30 ans après Paris Ziguinchor, avec tous ceux qui ont participé à cette tournée incroyable, en pensant évidemment avec Amadou, toujours à l'esprit. Et puis, Touré Kounda, c'est quand même l'aventure des copains de Amadou, tu le disais. Paco Seri a été présent donc dans ce disque, oui. Romain Guéza, le jeune Alioune Ouad, Nelson Palacio, Cheikh Tidiane Seck, Loco Akanza. Ça donne un album avec beaucoup de belles sonorités. Évidemment, les rythmes de la Casamance sont bien là.
Oui, et puis de la spiritualité. Parce qu'on vient tous des différents coins d'Afrique, en fait. C'est, si tu veux, quelque part, c'est une espèce de Waka Africa.
Oui, à mon voyage.
Voilà, dédié donc à ces deux frères. Et pour leur dire, bon, courage, on est là, on est avec vous, nous sommes ensemble, allez-y, on est derrière. Chacun de nous, à sa manière, vous encourage.
Et le 24 mai, dans quelques jours, ils étaient du côté du New Morning, mais ils remettront le couvert par rapport à une tournée, puisqu'il y a eu le New Morning où ils ont donné le start, mais Simon Vessière, leur attaché de presse que l'on salue, nous dit que ça va pas s'arrêter tout l'été, d'autant plus que lorsqu'ils faisaient leur traversée de la mer, du désert ou alors de je ne sais où, ils croisaient aussi les amitiés avec Santana et les autres. Santana apparaît également aussi dans ce nouvel album, L'homme qui fait de la musique qui guérit, dit-il. C'est la nouvelle mode pour Carlos.
Eh ben, j'espère qu'il va les guérir aussi. Ben, nous tous, en fait, hein, chacun amène un onguent et puis une bénédiction, finalement. Chacun de nous amène sa bénédiction à sa manière, et puis bon vent, et puis qu'on entende parler de vous, qu'on vous voit comme égal à vous-même, tel que on vous a laissé à un moment donné, c'est vraiment re-bienvenue.
Re-bienvenue également pour finir à nos amis, les frères du Bin Obin, qui vont lancer eux aussi leur nouvelle aventure sonore. Ils l'ont fait avec un beau clin d'œil au mois de mai dernier au studio des Variétés. Adlan et son frère sont toujours très chaleureux, ils ont toujours un sourire en coin.
Oui.
Et vous aussi, les gars, dès que vous passez par là, faites-nous signe, on sera ravis. Mais en tout cas, on apprécie déjà la carte, c'est un peu de soleil qui arrive encore.
Imagination
plus,
au vent. Et le soleil qui en tout cas en ce moment il nous chatouille. Il y a beaucoup de choses qui nous chatouillent, mais le vent est plutôt favorable. en tout cas pour les tourer et tout ça. Et alors, il y a quand même un Mouyengue dans Doutou, Jalal.
Eh oui, il fallait en parler. Alors le monument, un des monuments en tout cas des Las Poètes, pour parler de cette formation, a tiré sa révérence. On l'appelait affectueusement le grand-père du rap. Il s'agit de Jalal Mansour Nouridine. C'est un événement qui est arrivé donc le 6 juin dernier. Et c'est vrai que lorsqu'on parle des Las Poètes de Amanou, c'est de remonter way back. Parce que là où les gens pensent
Grand Master Flash,
ou alors Méli-Mel et les autres, il faut quand même revenir un peu plus loin, dès les années 60, avec le succès du premier album de ce groupe formé d'Abiodoum Oyewole, d'Omar Benhassen, le percussionniste Niladja, les Las Poètes qui avaient défrayé la chronique dans les charts américains dans les années 70.
Eh oui, trois poètes et un percussionniste, nous qui étions déjà en âge de comprendre comment ça marchait, quand ils sont arrivés, c'était une respiration extraordinaire, parce qu'on assistait à nouveau, après la soul music, on assistait à un type de contestation différent de James Brown. Et c'était pas I am black and proud, c'était beaucoup plus profond dans la poésie. Et le fait que c'était le minimalisme, mais alors vraiment que des voix, des paroles et une percussion, et des paroles qui avaient un sens d'une profondeur extraordinaire. Et pour nous qui étions là, ben c'était comme des, je sais pas, des messies qui venaient ajouter au message de Otis Redding, de James Brown et tout ça. Ils amenaient une autre contestation en fait, hein, très 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 culturelle, très poétique dans tout ça. Et on les a suivis, on a respiré. La première fois qu'on les a vus sur scène, et ça, c'était vraiment... je sais pas si tu te rappelles de leur pochette, là, où ils sont dans des poubelles à New York. Quoi,
ah ben justement, c'est effectivement ça qui avait défrayé la chronique. Alors pendant que certains vont se demander, c'est Saleh Dine qui va s'y coller, il y a ce visuel qui est un visuel d'anthologie que moi j'avais essayé de shipper à mon grand frère Christian, en me disant, voilà, non mais qu'est-ce que c'est que cette pochette. Il me dit, écoute, c'est les Las Poètes, petit, tu connais pas. Bon,
ça c'est la banlieue au début, la banlieue ici, on peut imaginer que c'était la banlieue ici avec tout le décor, quoi.
Et puis ils avaient un beau message de Amanou qui était après, deux ans après l'assassinat de Luther King, le fait que cet esprit de revendication civique chez les Noirs était un peu en berne. C'est ce que disait Jalal Mansour. Mm-hmm. Il s'agissait de wake up niggers, comme il
c'est
le dit.
Ça,
voilà, réveillez-vous et arrêtez de penser que les choses sont faites, parce que rien n'est encore accompli. Et alors vraiment, les influences, ça va de Kool & The Gang et tant d'autres qui ont repris leur musique, qui ont été samplées. Et puis c'est un bel héritage au niveau de la parole et de tout ce que ça peut emmener, notamment.
Et surtout la poésie, parce que ça reste quand même une poésie naturellement douloureuse. Mais ce wake up niggers, c'est bien que ce soit dit par un nègre.
Finalement. Et pas par un autre.
Voilà. Donc ça doublement le message. Si vous n'avez pas connu ça et que vous avez la curiosité des années 70, on sait jamais, hein, de toute façon, même s'il n'y a qu'une personne qui est sensible à ça, allez à la FNAC, demandez un peu un disque de Las Poètes, vous allez voir.
Et ce sera vraiment un aller vers le bonheur, c'est vraiment des choses qui font et qui restent dans l'histoire. Lorsque l'on parle du côté pile et du côté face du rap, eh bien lui avait les deux, et quand il dit ça parce qu'aujourd'hui le rap est quand même assez bling bling, suivez le regard les tournées Hit and Run de l'ami Jay-Z et Beyoncé.
Avec quand même à la clé des roches et tout ça, tu sais, à l'époque des revendications, on était plus souvent à pied, ou les trains qu'on prenait en route comme ça, sans payer, hein, je veux dire, pour aller du Mississippi jusqu'à New York en train, voilà, maintenant il y a des Rolls, il y a des avions et tout ça, donc la revendication, je ne sais pas s'il y en a encore, mais eux, les Las Poètes, ils sont là pour vous donner un tout petit peu le top départ de ça.
Et oui, et on fera un gros zoom dessus dans quelques semaines, n'ayez crainte.
Mm-hmm. Quant à nous, cette semaine-ci, nous avons deux monstres sacrés.
Et oui, deux monstres sacrés, parce que tout à l'heure, on était en mode avec quelqu'un qui lui aussi touche les étoiles encore, puisqu'il s'agissait du Big O qu'on évoquait. Et là, c'est le cas de quelqu'un avec qui tu as travaillé pas tellement loin d'ici.
quelqu'un qui m'a marqué, qui me marque encore. Je pense que j'ai fait pas mal d'albums dans ma vie. J'ai participé à beaucoup de séances, à beaucoup d'expériences. Mais il s'agit de Franklin Boukaka. Franklin Boukaka m'a marqué. S'il y a un album, quand on parle des îles, c'est, quand tu vas dans une île déserte, qu'est-ce que tu amènerais comme musique et tout? Je dirais pas que c'est le seul album, mais je dirais que dans ce que je choisirais, forcément, il y a Franklin Boukaka.
Et tu serais pas le seul.
Ah, voilà, et ça me rassure parce que, vu le succès continuel, hein, parce que ce disque-là, il est toujours frais pour les gens qui le découvrent. Hein.
Absolument, et qui découvrent le personnage. C'est vrai qu'on avait reçu le jeune Marien Foné Ngombe, qui avait écrit un livre, Franklin l'Insoumis. C'était il y a déjà 3 ans, mais aujourd'hui, Franklin Boukaka est à toutes les sauces. Les jeunes en parlent sur Internet, parlent de son message, et récupèrent même des paroles comme celle des Immortels ou Atta Ozali pour évoquer tant le côté des problèmes ethniques que le problème politique et la parole bâillonnée.
Eh ben, les premiers qui ont été sensibilisés, c'est quand même des latinos. Hein. Dès le départ, à la sortie de cet album, combien de covers il n'y a pas eu aux États-Unis de cet album-là, que ce soit Mwanga, que ce soit Bibi et tout ça. Les Cubains et les Afro-Cubains et les Portoricains, pour eux, c'était une découverte de leurs cousins. Alors, réellement, musicalement parlant, venant d'Afrique, passant par Paris.
Et oui, et l'aventure de Paris, ça veut dire un album qui s'intitule Franklin Boukaka à Paris. Il y avait ce visuel de quelqu'un qui portait un super boubou et qui avait un regard, tu le disais, de Amanou, vraiment porté vers le lointain. C'est quelqu'un qui avait, j'imagine, une personnalité très entière, parce qu'on peut pas écrire des textes comme ça si on n'est pas habité.
Il y avait la profondeur de son regard, Tito. Quand ce gars-là, il parlait, il fallait peser. Tous ses mots valaient quand même toujours de l'or. Il parlait pas pour ne rien dire, en fait. D'ailleurs, on peut se rendre compte, pour ceux qui comprennent le lingala, la signification des paroles de ces morceaux.
Des morceaux qui sont retracés ici avec une sorte de millésime du meilleur, mais principalement d'ailleurs de cet album Franklin Boukaka à Paris, en commençant avec un hymne, qui est évidemment l'hymne que tout le monde connaît. Si on évoque le bûcheron, c'est vraiment un chant pour le continent.
C'est aussi la rencontre avec l'Occident, parce que ce violon, la sonorité de ce violon qui n'a rien à voir avec un synthétiseur, il y avait un interprète terrible qui a doublé les violons finalement, parce qu'on n'avait pas des sous pour prendre deux violons, mais comme on avait des heureux, comme on dit dans le métier, il pouvait se doubler ou se tripler, ce monsieur. C'est un ami que j'ai connu, il était à l'orchestre de l'Opéra de Paris.
Ah, mais donc, c'est pas une petite main.
Non, donc vous entendez, parce que beaucoup de gens sont sensibles au son du violon sans savoir exactement. Comme on n'écoute pas toujours entre le violon et le synthé, le lambda, il consomme. Hein. Mais quand ce gars, il fait cette phrase qui a l'air facile comme ça, mais qu'il anoblit par la sonorité et par sa technique, parce que c'est pas da 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 do ré mi fa mi. Il y a plusieurs façons de faire le do ré mi fa mi. Et sa façon à lui montre que le do ré mi fa mi, il peut être sublimé.
Et comme quoi, le Do Amanou vous donne les notes pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient les reproduire et pourquoi pas créer un pont sur le Congo. C'est le rêve des politiciens. Le rêve en musique avec cette première version, pont sur le Congo, Do Amanou, ben c'est ce que Issou, Spirito et les autres ont toujours pratiqué. Et
voilà, c'est le rêve de tout le bassin du Congo, c'est ce fameux pont qui est toujours un peu dans l'arlésienne quand il s'agit du côté intellectuel de la chose. C'est toujours l'arlésienne, on l'espère. On l'espère pour de bon et pourquoi pas demain ou après-demain. En tout cas, les musiciens, Franklin, lui, il avait concrétisé déjà par sa musique.
Par sa musique, ses idéaux, il aura voyagé, était jusqu'en Guinée et autres. Et quand il arrive en France, eh ben à tes côtés, il est sensible à tout ce qui passe. Et le morceau Nakoki, eh ben on pourrait très bien placer des paroles d'un Sacha Distel ou autre dessus. Parce qu'il y a un rythme qui fait pop.
Ben oui, nous étions dans l'époque. D'ailleurs aussi, les Franklin, les Ernesto Djigé, toute cette époque-là, les François Louga, nous avions pris le pari de jouer la musique aussi de l'ambiance du moment, de l'époque, le son de l'époque, mais avec des idées africaines. Et avec des textes africains, mais avec le contexte qui voulait que, parce que ces rythmes-là dont on parle, là, le jerk, le twist et tout ça, c'était dansé également par des jeunes en Afrique. Faut pas oublier que Twist à Léopoldville, ça a été l'un des plus grands twists et l'un des plus grands succès en Afrique, dans toute l'Afrique, parce que les jeunes du moment veulent s'accaparer de l'air du temps. L'air du temps n'était pas spécialement fait pour uniquement jouer la musique de Côte d'Ivoire. Eux, je joue que la musique de Côte d'Ivoire. Il y avait cette possibilité. Hein, les Amédée faisaient la musique vraiment le dopé, tout ça, c'était terriblement rousse, quoi. Mais quand les Ernesto sont arrivés, ils avaient en eux le fait qu'ils sont de cette époque-là et que autour d'eux, on entendait ces sons. Donc c'était bien de les mettre dans... En fait, les deux voyageaient sans savoir qu'on avait besoin des deux.
Et d'ailleurs, sur les photos de l'époque, ça se voit bien, celle de Malik Sidibé ou tant d'autres, on voyait des jeunes avec les poses twist, les jupes étaient les mêmes, les costumes très cintrés étaient les mêmes qu'au quartier latin.
Eh ben, regarde, tu n'as qu'à regarder Aladdin maintenant, ça n'a rien à envier à Beyoncé, hein. Je veux dire, on a, nous, Aladdin, on a nos filles, là, qui chantent en ce moment, les Charlotte, Dipanda et tout ça. L'Afrique est en train de gagner son indépendance culturelle à une vitesse grand V, hein.
Et l'Afrique, elle est belle avec des titres comme Bibi et ce fameux, en tout cas, cette fameuse phrase musicale. Alors ça rappelle les papis, les tontons et les autres. C'est un clin d'œil à tonton Adolphe qui boulou, qui m'écoute et qui va faire panadin, panadin, panadin.
Ah ouais, c'est le gimmick. Bah ouais, c'est le gimmick.
Alors on savait pas toujours d'où ça venait, mais c'est vrai qu'avec ce fameux, alors ce piano, il est tellement cher au cœur du Douala Banou.
Eh ouais, ben il y a des moments où j'étais pianiste aussi, donc je jouais la façon dont je ressentais. Moi, personnellement, la musique de Franklin et la façon dont il fallait la restituer, non seulement par le piano, le saxo, mais également par les violons, parce qu'on a eu tout de même la chance d'avoir un orchestre, parce que c'était produit à l'époque par les Michel. Donc je pouvais prendre les musiciens que je voulais pour faire les orchestrations. J'avais cette liberté, c'est pas moi qui payais. Donc l'imagination, quand tu as une pâte à modeler de cette qualité, ben tu y vas, hein, les violons sont là, c'est la fête, il y a des morceaux où il y a les flûtes, il y a des morceaux où il y a le piano, il y a une dame, on partageait le piano avec une dame qui adorait jouer le latino et qui joue même dans les disques de Jeff, hein, du grand Jeff et tout ça. Donc cette époque-là, on avait la possibilité de faire travailler notre imagination sans les contraintes entre guillemets patriotique.
Et c'est ce qui donne une couleur intemporelle à la musique de Monsieur Franklin Boukaka.
Voilà, voilà.
Et une belle première partie du jukebox.
Voilà, et donc une petite pièce. Hein.
Dans le bass-string.
Yeah.
Bongo sur Africa numéro 1. sur Africa numéro 1.
Franklin Boukaka, un immortel, quelqu'un qui malheureusement a disparu dans les conditions terribles dans la nuit du 23 au 24 février 72. C'était évidemment cette période trouble dans l'histoire du Congo-Brazzaville. L'artiste partait vers son destin, tu l'as dit, de Amanou. Au moment où il quitte la France pour retourner donc au Congo, sa parole de toute façon est déjà remarqué par les autorités d'alors, et on sait qu'il gêne.
Ben, tu vois, Tito, en général, le côté tragique de, des artistes qui fait la noblesse, si je peux pas dire, c'est que ce sont des héros qui ont toujours un destin qui a flirté énormément avec la tragédie. À un moment donné, tu sais pas, un accident de voiture, Bella Bello, des accidents avec des Guinéens au Sénégal, à un moment donné.
Quand t'es facile.
Voilà, et puis alors, un accident, disons, politique. Toujours, ils ont une couronne avec la tragédie dans la couronne.
Et l'immortalité ensuite, car aujourd'hui...
Naturellement.
C'est vrai que c'est une victoire posthume pour Franklin Boukaka. Ses œuvres avaient été bâillonnées à un moment sur les ondes de la radio des deux rives du fleuve, d'ailleurs, des deux côtés du fleuve. Mais aujourd'hui, cette survivance, ce revival de Franklin Boukaka, eh bien, il est fait par la nouvelle garde, la relève, qui sample parfois aussi ses sonorités, et notamment des morceaux comme Mwanga, qui reviennent au goût du jour, parce qu'Aragon aussi y avait apporté sa touche.
C'est ça. Alors, ça peut sauter une ou deux générations, mais quand c'est puissant, c'est sûr que ça revient, toujours. Ce genre de... Moi, un gars, qui n'est pas content de l'écouter, que ce soit par Franklin, que ce soit par les Cubains, le morceau est tellement bien ficelé à tous les niveaux que tu peux chanter ça en te rasant. Même si tu comprends pas les paroles, il y a la voix, parce que en plus, ce qu'il y a, c'est que Franklin, il avait aussi une belle voix.
Voilà, très très belle.
Il y a ça aussi, hein, qui belle voix, belle mélodie, du goût, et puis la chance que les arrangements correspondaient à voilà, il y avait tout, il y avait le couturier, il y avait tout un tas de trucs autour d'un moment. Pour moi, c'est une époque d'or. Pour moi personnellement, c'est une époque d'or parce que tous ces gars-là, ils venaient à chaque fois qu'on faisait un disque en plus pour eux, c'était des tubes, hein, je veux dire, voilà, Pekusa, c'est un tube, Mamadou Koulibaly, c'est un tube, Franklin, c'est tous des tubes derrière des gens qui ont des personnalités qu'ils ont construites à partir des collaborations, quoi.
Et les collaborations, il y en a une de très très belle, le Hatta Ozalit, dont le texte est signé d'Henri Lopez, écrivain, diplomate, homme de culture. Alors c'est incroyable parce que le titre parle des problèmes ethniques. Le Congo connaîtra de guerres terribles dans les décennies qui suivirent, mais on peut l'adapter à beaucoup de pays.
Ah ben ça, on multiplie, hein. C'est comme quand il y avait du papier carbone. Hein. Si tu mettais deux ou trois carbones et tu avais la multiplication tout de suite. Parce que ce sont des choses qui sont quand même pas toujours du passé. Hein. Les trucs, les textes sont terriblement actuels. Hein. C'est un peu comme à Kendengue. Mm-hmm. Ce sont des gens qui ont des Francis Bébé, des gens, Idiba. Quand tu écoutes Idiba, ça n'a pas vieilli parce que les problèmes restent les mêmes.
Et oui. Mm-hmm. Il faudrait d'ailleurs qu'Henri Lopez, tonton Henri, si tu nous écoutes, que tu viennes nous parler, parce qu'il y a un contexte quand même de ces années-là. Il était alors aussi, il faut le préciser, l'un des plus jeunes premiers ministres de l'histoire du Congo.
Voilà, lui aussi, il a une littérature historique autour de lui. Hein, ce serait bien qu'il... Et il aime la musique en plus, forcément. Ce serait bien qu'il... S'il nous entend aussi, son voisinage nous entend... il est volontiers, on parlera pas politique, on parlera de la culture. Donc, et comme il a la plume, hein, voilà.
Une très belle plume. Et puis, on lui offre également ce morceau, Les Immortels. Alors, tout le monde pourrait se dire ici, tiens, c'est de l'Académie française. Eh bien, non, c'est plutôt ceux du continent africain, avec les Umniobé, avec aussi Malcolm X, et puis beaucoup d'autres figures, qui disparaîtront tragiquement dans ces années, ben, où il ne faisait pas bon lever le poing ou la voix. Et Boukaka, avec un un morceau très très émouvant leur rend hommage.
Eh bien, chaque continent a ses immortels. Hein. Voilà la preuve, c'est ça. Donc, cette deuxième partie, nous espérons en tout cas que vous allez la déguster avec appétit hein, et gourmandise.
Antoine, dis-moi gagné. Soki koi akoti lopango. ki kongo koya koya kamono koya ngote koya koya kela yo mawate koi akoya seyo soki mopaya beti bunduki Otsoka okomona motane ya makila na bino solo saba oyo aliki kopunda na ndeko tango koi akoti lopango
Manu Dibango sur Africa numéro 1
Africa mon bimba Tokangi maboko, tozali kotalae Bana basili na kokende Bana basili na koteka mai na banguna Tolati mokuya ata malobate Congo na Panafrika maleli Afrika mapimba tokangi maboko tozali kotala e Bana basili na kokende Bana basili na koteka mai na banguna Tolati mokuya ata malobate Kongo na bana Afrika baleli O medi ben baka Medi nzela na yo ya pato nyonso Medinzela na yo ya oji ya enda Medinzela na yo ya Camilo Torres Medinzela na yo ya Abdelkader Medinzela na yo ya Koulibaly Medinzela na yo ya André Machua Medinzela na yo ya Simon Kimbangu Medinzela na yo ya Albert Lutuli Medinzela na yo ya Boganda Oh oh, ya Tiers Monde Oh oh, ya Libération, ya pas peuple
Manu Dibango sur Africa numéro 1
Mehdi Ben Barka, et c'est vrai que quand ce morceau termine, là c'est vraiment incroyable comme effet de Amanou, parce que il chuchote, il dit le nom de Mehdi Ben Barka jusqu'à ce que ça s'éteigne, et là c'est pas au hasard, c'est vraiment une intention.
Oui, et puis la façon dont ça a été concocté, en fait c'est le dernier morceau de l'album, et c'est le seul qui manquait quand on avait fini les autres.
Ah, et mais que il a bien fait, moi.
Voilà, les musiciens étaient partis. Et donc, on n'a pas eu le temps de faire un arrangement comme les Mwanga et tout ça. Hein. Alors, Perse, qui était le patron, dit non, Manu, il faut ajouter un morceau. Alors, Franklin arrive, dit, mais faisons. Qu'est-ce qu'on peut faire à deux? C'était comme ça la question. Qu'est-ce qu'on peut faire à deux? Il y a le piano. Ah ben attends, on va faire les Immortels.
Et Les Immortels, c'est un morceau puissant pour la jeune garde et d'ailleurs pour la relève, parce que c'est un personnage qui a compté et qui compte dans l'histoire politique du Maroc, opposant d'ailleurs à Hassan II, le souverain d'alors, Mehdi Ben Barka, qui avait donc disparu dans des conditions obscures du côté de Fontenay, le vicomte, tiers-mondiste, panafricaniste. C'est des visages en tout cas qui restent et que personne n'oublie. Parce que...
Mais c'est une histoire qu'on a du mal à oublier. Hein. Les deux ans, on ressort ça.
Voilà. Sa famille demande la vérité. En tout cas, c'est des figures de l'époque et qui devraient retrouver les pages des livres d'histoire sur le continent un peu plus.
Ben oui, les Omirobé et tout ça, il les a tous cités. Et puis, je sais pas, c'était limpide. Ça parlait de soi, hein, je veux dire. Ça allait de soi une fois que tu l'avais dit. Il fallait encore avoir le courage de le dire à cette époque-là.
Avec cette phrase qui est incroyable, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification.
Et voilà, alors on vous la dédie, en tout cas, cette phrase ce matin.
Et c'est déjà la fin de cette émission, Doyen Manou, parce que Valentin nous fait signe que la clepsydre est écoulée, et dans un instant, il va falloir retrouver Fatou Birama.
Fatou, ça va être à toi comme tous les dimanches après nous. Ben voilà quoi. Et toujours avec le plaisir d'être avec vous la semaine prochaine aux mêmes heures.
Hein. Et oui, à 10h sur les 107.5 FM. Et pour ceux qui sont réveillés en retard, le replay via la page d'Africa numéro 1, rubrique Manu Dibango.
Voilà, et Tito, et toujours avec le...
Africa numéro 1.